Europe 1, il est 6h.
Le dispositif ne nous rassure pas. On parle encore, pour le moment, de départ non volontaire. Ça ne s'est jamais vu dans le groupe. Je pense que là, on va avoir une grosse bataille.
Une grosse bataille pour tenter de sauver les emplois qui peuvent l'être chez Airbus. 15 000 postes supprimés, dont 5 000 en France, conséquence de la crise sanitaire. Des syndicats, vous l'avez entendu, inquiets. Nous serons au siège social de l'avionneur près de Toulouse dès le début du journal. Air France pourrait de son côté supprimer 7 500 postes. Agnès Buzyn, interrogée pendant plus de 4 heures par les députés de la commission d'enquête sur la gestion du Covid, les tests, les stocks de masques. L'ex-ministre de la Santé s'est défendu.
Ce que nous avons mis en place au ministère de la Santé depuis le 10 janvier est sans commune mesure, en tous les cas en termes d'anticipation, avec ce que j'ai vu, notamment dans les autres pays.
Dans ce journal, où pourrez-vous partir en vacances? Cet été, l'Europe rouvre ses frontières à une quinzaine de pays ce matin, mais vous l'entendrez, la réciproque n'est pas toujours vraie. Et puis l'encadrement des loyers à Paris, pas vraiment un succès un an après son entrée en vigueur. Combinaison de locataires mal informés et de propriétaires parfois peu scrupuleux.
Après le mois de janvier, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, les propriétaires ont vu qu'il n'y avait pas trop de problèmes pour mettre un loyer au-delà des bornes.
Et les locataires ont un moyen peu connu de se défendre, on vous explique.
Juste après ce journal, mon invité inattendu, élu à Vinzieux, c'est dans l'Ardèche. C'est le plus jeune maire de France, il a 19 ans. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassène et un hashtag pour dénoncer la grossophobie. C'est à 6h25 tout à l'heure. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Une crise d'une gravité incroyable, on est vraiment en mode survie. Les mots ce matin du président exécutif d'Airbus. Le groupe annonce la suppression d'environ 11% de ses effectifs dans le monde. 15 000 postes, dont 5 000 en France.
Conséquence de la crise du coronavirus qui a mis à l'arrêt le transport aérien, Airbus fait face à une situation sans précédent avec une baisse de 40% de ses livraisons.
À Blagnac, près de Toulouse, siège de l'avionneur, c'est la stupéfaction. Pas question pour les syndicats d'accepter un plan d'une telle envergure. La ligne rouge, ce sont les licenciements secs. La direction ne les exclut pas. Elle espère les limiter grâce au chômage partiel et assure compter d'abord sur des départs volontaires et des retraites anticipées. Benjamin Peter.
Ces chiffres ont été un choc. On sait qu'on va avoir vraiment des semaines compliquées.
Comme tout le monde, Françoise Valin de la CFE-CGC s'attendait à un chiffre élevé de suppression de postes, mais peut-être pas à ce point. Elle redoute que ces annonces envoient un mauvais signal qui pourrait déstabiliser toute la filière et notamment les sous-traitants.
Le dispositif ne nous rassure pas. On parle encore pour le moment de départs non volontaires. Ça ne s'est jamais vu dans le groupe. Je pense que là, on va avoir une grosse bataille. Ça va être le combat dans toute la filière parce qu'avec des mesures pareilles chez le chef de file de la filière, les conséquences que ça va avoir dans les prochains jours, vraisemblablement, pour d'autres entreprises.
Tous demandent donc des négociations, notamment en force ouvrière. Pour Dominique Delbouis, le coordinateur du syndicat majoritaire chez Airbus, les départs contraints, c'est la ligne rouge. Il espère un recours massif au chômage partiel.
On compte beaucoup sur ce dispositif d'activité partielle pour traverser cette crise qu'on sait tous conjoncturelle. Donc on compte énormément sur ce dispositif pour déjà limiter le nombre d'emplois à supprimer et bien sûr pour éviter les licenciements contraints.
Et il mise aussi sur les dispositifs de pré-retraite, le non-remplacement, la formation ou l'implantation d'une nouvelle ligne d'A321 à Toulouse pour limiter l'impact de ce plan d'adaptation. À Toulouse, Benjamin Peter, Europe 1.
15 000 postes supprimés chez Airbus, dont 5 000 en France, plan jugé excessif par Bercy.
Un secteur du transport aérien massivement frappé. Air France envisage la suppression de 7 500 postes d'ici 2 ans, dont 1 000 chez Hop, sa compagnie régionale. La direction doit annoncer ses départs demain. Emmanuel Duteil.
Un poste sur 6 devrait être supprimé chez Air France d'ici à 2022. C'est un plan massif que prépare la compagnie. Un peu moins de la moitié de ces suppressions de postes seront des départs non remplacés. La direction l'assure. Nous avons une pyramide des âges très favorable. De nombreux collaborateurs vont bientôt partir en retraite. Selon nos informations, des départs en retraite anticipés vont aussi être proposés, notamment chez Hop, la filiale des vols France, une filiale qui va être durement touchée par ce plan. Et puis Air France va proposer un gros plan de départ volontaire. Du coup, pour le moment, la compagnie compte réussir à ne pas passer par des départs contraints. Même si les syndicats sont dubitatifs, c'est la ligne rouge qui avait été fixée par l'État en échange de son énorme prêt. À Bercy, en tout cas, on est très clair. Toutes les compagnies sont en quasi-faillite. Air France doit renouer avec la rentabilité pour ne pas disparaître.
Et on apprend aussi cette nuit Aeromexico, l'une des plus importantes compagnies d'Amérique latine, qui demande de déposer le bilan de sa filière aux États-Unis.
Le carton des primes à la conversion annoncé fin mai par Emmanuel Macron pour relancer le marché automobile, qui lui aussi a beaucoup souffert de la crise.
Sur 200 000 primes disponibles, la moitié a déjà trouvé preneur. Rien qu'au mois de juin, le dispositif sera très certainement terminé avant la rentrée de septembre. Information qu'Europe 1 vous révèle Noël ce matin. Détail dès le début du journal de 6h30 et puis confirmation de cette information qu'on vous donne avec ces chiffres ce matin. Le marché automobile français se redresse en juin après des mois de chute, plus 1,2% dans le détail. Renault progresse de 6,5% en juin, mais PSA chute de 9,1%.
Europe 1, il est 6h05.
Plus de 4 heures d'audition, l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a justifié hier sa gestion de la crise sanitaire face aux députés de la commission d'enquête. Elle était aux responsabilités au début de la crise, avant de quitter le ministère.
A-t-elle suffisamment bien anticipé, bien préparé le pays face au virus? Les masques, les tests? Oui, a assuré Agnès Buzyn qui a réfuté tout manque d'anticipation.
Ce que nous avons mis en place au ministère de la Santé depuis le 10 janvier est sans commune mesure, en tous les cas en termes d'anticipation, avec ce que j'ai vu, notamment dans les autres pays. L'intuition, elle se traduit par un travail quotidien avec le DGS. Nous travaillons main dans la main. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'en fonction, je n'ai à aucun moment sous-estimé le risque et que j'ai préparé notre système de santé en anticipation.
Sur le front de l'épidémie, dernier bilan sanitaire, 30 morts supplémentaires en 24 heures, un peu plus de 29 800 décès au total. À noter un net ralentissement de la mortalité dans les EHPAD et toujours la baisse du nombre de cas graves en réanimation.
Et alors que le monde tente péniblement de se relever de la crise, voilà qu'un autre virus inquiète les scientifiques. Des chercheurs chinois alertent sur un risque de pandémie d'origine animale, encore. La base serait cette fois porcine, Mathieu Charrier.
Ce nouveau virus serait un descendant de la souche H1N1 qui avait déclenché une pandémie en 2009, tuant 280 000 personnes à travers le monde. En fait, ces chercheurs chinois ont effectué près de 30 000 prélèvements nasaux sur des porcs entre 2011 et 2018, répartis dans une dizaine de provinces du pays. Et à 179 reprises, ils ont détecté des virus de grippe porcine, dont un, le G4EA. H1N1 qui serait déjà passé à l'homme, puisque ces chercheurs ont aussi prouvé que 10% des personnes qui travaillent en contact avec ces porcs ont déjà été infectées. Heureusement pour nous, rien n'indique pour le moment que les hommes peuvent se transmettre ce virus entre eux, car si c'était le cas, la pandémie serait alors très dure à éviter, d'autant que le vaccin mis au point contre la grippe H1N1 serait inefficace. D'où l'appel de ces scientifiques à mettre en place une surveillance beaucoup plus accrue de ces porcs. Appel officiellement entendu par les autorités chinoises. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a indiqué prêter une attention particulière au développement de ce virus et être prêt à mettre en place les mesures nécessaires pour contenir sa propagation.
Les explications de Mathieu Charrier.
Dans un tout petit instant, on va vous raconter le flop de l'encadrement des loyers à Paris un an tout juste après sa mise en application.
Et nous irons au chevet de ces sites et monuments historiques français qui ont besoin d'être sauvés par le loto du patrimoine, notamment un superbe temple du XVIIe siècle à Montbéliard. Mais d'abord, dans 3 jours, début des vacances scolaires, dans 2 jours même, c'est vendredi, et vous vous demandez peut-être dans quel pays pourrez-vous vous rendre au vu de la situation sanitaire.
Ce matin, l'Union européenne rouvre ses frontières à une petite quinzaine de pays hors espace Schengen. Les ressortissants algériens, australiens, japonais ou encore rwandais sont de nouveau autorisés à entrer librement en Europe et donc en France.
Pays choisis pour leur bonne situation sanitaire, russes et américains sont pour l'heure exclus de cette liste, nous allons y revenir. Mais d'abord, l'Europe accueille donc à nouveau des ressortissants étrangers, d'accord. Mais nous, Français, Isabelle Horry, où avons-nous le droit d'aller? On pense à l'été alors que nous sommes à 2 jours des vacances scolaires.
Eh bien franchement, ça reste toujours assez difficile de trouver une destination. Alors commençons par les pays à qui les Européens rouvrent leurs portes. L'inverse n'est pas forcément vrai parce que leurs situations sanitaires sont souvent meilleures que la nôtre. Exemple, la Nouvelle-Zélande qui a quasiment éradiqué la maladie. Sa première ministre n'a pas tellement envie d'accueillir des touristes européens. C'est la même chose en Australie, au Canada, en Algérie, au Maroc, au Japon ou encore en Thaïlande. En revanche, la Tunisie, le Monténégro et la Serbie jouent le jeu de la réciprocité. Vous allez pouvoir y aller. Ensuite, il y a le reste du monde. Parfois, les Européens ne sont pas les bienvenus, comme aux États-Unis ou en Chine. Parfois, vous pouvez y aller, comme en Turquie. Mais il ne faut pas oublier que dans ces pays, la situation est plus dégradée qu'en Europe et qu'à votre retour, vous risquez une quarantaine. Bon voilà, après ces infos un peu décourageantes, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'Europe, elle est rouverte. Quasiment tous les contrôles sont levés ou le seront dans les jours à venir, y compris ces nouveaux au Danemark et en Norvège.
Isabelle Horry, merci.
On vous le disait, les ressortissants américains ne sont pas, pour l'heure, autorisés à revenir en Europe. Les États-Unis ou les responsables sanitaires reconnaissent qu'ils ne contrôlent pas, je cite, « totalement la pandémie de coronavirus ». coronavirus. Il redoute une explosion des contaminations.
Le docteur Fauci, conseiller de la présidence dont la parole est très écoutée, redoute bientôt 100 000 nouveaux cas par jour. On en est pour l'heure à environ 40 000. Joe Biden, candidat démocrate au scrutin présidentiel de novembre, annonce qu'il n'organisera pas de meeting dans ces conditions, au contraire de Donald Trump.
Europe 1, il est 6h10.
Et on tire ce matin le bilan de l'encadrement des loyers à Paris. Écoutez bien, un an tout juste que la mesure est en vigueur et c'est loin d'être un succès. Plus de la moitié des annonces de location sont encore trop chères par rapport à ce que prévoit la loi.
Et qui plus est, peu de locataires parviennent à faire valoir leurs droits. Théo Manval.
Nous sommes 3 en colocation et nous payons 3 000 € par mois alors que le montant encadré devrait se situer aux alentours de 2 300 €.
700 € de trop chaque mois déboursés par Félix et ses colocataires pour leur appartement d'une centaine de mètres carrés à Paris. Au total, 53% des annonces sont encore au-dessus de ce que prévoit la loi. L'encadrement des loyers n'a été efficace que les 6 premiers mois, selon l'étude menée par Thomas Lefebvre du cabinet Meilleurs Agents.
Après le mois de janvier, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, les propriétaires ont vu qu'il n'y avait pas trop de problèmes pour mettre un loyer au-delà des bornes.
Pas de contrôle, en effet, car, explique le ministère du Logement, on ne peut pas condamner un propriétaire pour une simple annonce au prix trop élevé. Il faut qu'un bail soit signé pour que l'infraction devienne réelle. Et c'est ensuite au locataire de signaler ce loyer abusif sur une plateforme en ligne, sauf que personne ou presque ne la connaît. 76 signalements seulement l'an passé et des démarches à n'en plus finir ensuite pour les motiver, comme Félix.
La procédure n'est pas simple, elle est longue. Il faut quand même pouvoir payer le montant du loyer jusqu'à la décision de justice. Nous, c'est en cours. Une procédure qui aura pris environ 6 mois.
Pour les associations, il faut malgré tout faire connaître cette plateforme de signalement sur Internet, Référence Loyer Île-de-France.
Référence Loyer Île-de-France. Le théâtre romain de Lillebonne en Seine-Maritime, le pont suspendu de la rivière de l'Est à La Réunion ou encore le séchoir à tabac de Lipsheim dans le Bas-Rhin, 3 sites historiques français merveilleux, mais dont l'état de conservation inquiète. Ils font partie des 18 sites sélectionnés pour la 3e édition du Loto du patrimoine qui sert à collecter des fonds pour des rénovations.
Bonjour Karine Franck.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous êtes pasteur, responsable spirituel au temple protestant Saint-Martin à Montbéliard, l'un des autres sites sélectionnés. Un temple construit au XVIIe siècle, classé monument historique. Je crois que c'est le tout premier temple protestant de cette envergure en France. On imagine que c'est un soulagement d'avoir été sélectionné pour ce loto du patrimoine.
Oui, c'est un soulagement, bien sûr. C'est aussi un encouragement pour tous les bénévoles qui ont travaillé pendant de longues années pour aboutir à la restauration de ce lieu, oui.
De quelle somme avez-vous besoin pour restaurer le monument ?
Eh bien, en totalité, il nous faut 3 millions d'euros, mais sachant qu'on peut recevoir des subventions de la part des autorités publiques.
Alors, décrivez-nous un petit peu ce temple magnifique. Qu'est-ce qui est le plus dégradé dans le temple et est-ce que l'état du temple permet d'accueillir du public ?
Le temple accueille toujours du public, hein, il n'a jamais arrêté de le faire. Il est dégradé le plafond est en mauvais état. On a dû déjà intervenir il y a quelques années parce que des bouts de corniche partaient. Le sol est inégal et provoquerait éventuellement des chutes. Les murs sont aussi en mauvais état. Enfin, c'est un état général qui n'est pas très heureux et qui rend l'accueil moins agréable.
Karine Franck, simplement pour nos auditeurs, parce qu'on va commencer à rentrer dans cette dynamique de loto du patrimoine, certains auront peut-être envie de jouer pour participer. Décrivez-nous un tout petit peu ce temple-là. Faites-nous rêver comme si on y était.
Alors, c'est un temple qui a été construit il y a plus de 400 ans maintenant. Alors, il a une particularité, c'est d'être le témoin d'une vieille histoire entre le pays de Montbéliard, donc cette toute petite enclave entre l'Alsace et Besançon, et la région allemande du Wurtemberg, parce que alors il se trouve que depuis 1397, on faisait partie du comté de Wurtemberg, et le comte a pensé qu'il serait important de construire un très gros édifice pour accueillir toute la population de Montbéliard, et donc c'est comme ça que le temple a été construit. Alors pour le faire, il est parti en Italie avec un architecte qui s'appelle Heinrich Schickart et ils sont allés piocher des idées en quelque sorte là-bas. Et quand ils sont revenus, ça a donné ce mélange assez original en fait d'un édifice qui est très simple à l'intérieur, hein, de type révolutionnaire, et à l'extérieur qui témoigne vraiment de cette époque de la Renaissance italienne.
Il faut aller le voir. J'invite nos auditeurs, Karine Franck, à aller voir ce temple Saint-Martin à Montbéliard pour avoir vu quelques photos en préparant l'interview. C'est absolument somptueux. Et voilà un de ces sites qu'il faut préserver, un des sites du patrimoine français. Karine Franck, merci beaucoup. Pasteur, justement, au temple Saint-Martin à Montbéliard, sélectionné pour le prochain loto du patrimoine. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 6h d'Europe
1. Je invente à partir du 31 août et jusqu'en juillet 2021. Et puis, c'est un tout petit peu mieux par rapport à l'an dernier, Mathieu, mais nos comportements sont encore bien trop dangereux au volant, selon l'enquête annuelle de la Fondation Vinci Autoroute publiée ce matin. 91% d'entre nous disent dépasser les limitations de vitesse, 72% concèdent ne pas respecter les distances de sécurité, 27% envoient des mails ou des SMS en conduisant.
Pourquoi vous me regardez ?
Ah non, 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 pour vous redonner la parole.
Il y avait un petit côté... Non, attendez, le procureur Lacroix, là.
Pas du tout. Vous
ouais,
êtes très
vrai, coupable. Ça m'est arrivé. Jérôme Lacroix, merci beaucoup. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Il est déjà 6h15.
Europe 1. Et la matinale d'Europe 1 se poursuit avec votre invité. Dans un instant, Mathieu Béliard.
À quel âge vos premiers souvenirs politiques, vos premiers émois politiques, vos premiers engagements aussi? Mon invité inattendu à suivre vient d'être élu maire. Il est maire d'une commune de près de 500 habitants. C'est le plus jeune maire de France. Il a tout juste 19 ans. À tout de suite.
Il est 6h17 et sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Trois jours après le second tour des élections municipales, on en parle encore. La vague verte, bien sûr, avec son lot de nouveaux visages en politique. Le suspense à Marseille, toujours. Mais pour le moment... Personne, je crois, ne parle de Vinzieux.
Vinzieux, pourtant, c'est en Ardèche. Près de 500 habitants, votre invité inattendu, Mathieu Béliard, a seulement 19 ans. C'est le plus jeune maire de France, le maire de Vinzieux, donc Hugo Biollet.
Bonjour Hugo Biollet.
Bonjour, merci beaucoup.
Et merci d'être en direct avec nous, merci à vous. Alors 19 ans, plus jeune maire de France, élu à 18 ans hein, au premier tour des municipales, rien que ça. À quel moment est-ce que vous vous lancez, Hugo Biollet? À quel moment est-ce que vous vous dites que vous pouvez concourir pour la mairie de Vinzieux?
Alors ça s'est passé en plusieurs étapes, mais en fait d'abord j'ai pu observer, être spectateur de cette vie et j'ai vu que c'était un moyen très très intéressant d'aller aider les gens et puis d'avoir un poids aussi dans la vie de la commune et de m'y impliquer. Et donc il y a eu cette première étape, cette réflexion de fond et puis après quand j'ai vu qu'il y avait une opportunité et que je pouvais faire quelque chose pour le village, ben après réflexion je me suis lancé dans ce projet qui était un peu fou au début et je m'en suis rendu compte assez vite.
Je vais me permettre Hugo Biollet, c'est pas de votre âge?
Il n'y a pas des choses qui sont d'un âge quelconque. Moi, l'âge, c'est plutôt la motivation qui m'a intéressé. Et puis là, j'ai quelque chose dont je n'ai aucune emprise sur mon âge. J'ai une emprise uniquement sur ma motivation, sur la manière et sur les capacités que je peux avoir pour le village. Donc, c'est plutôt une question de capacité que d'âge. On peut avoir de très bons maires, très jeunes et vieux et plus vieux. On peut avoir de très mauvais maires, très jeunes et plus vieux. Donc, c'est pas ça qui va faire en sorte que je sois maire ou pas.
En tout cas, bon maire ou mauvais maire. Vous êtes étudiant, étudiant à Sciences Po Grenoble. Là, pour les 6 ans à venir, il va falloir jouer de l'emploi du temps, un peu, Hugo Biollet.
Exactement, il va falloir s'organiser. C'est peut-être un petit peu le maître mot. Il y a deux choses qui vont permettre que ça se passe bien. C'est l'organisation d'une part, et puis la deuxième chose, c'est l'équipe. L'élection, on élit une équipe en fait pour les municipales. Et donc à Vinzieux, on est 11 parce qu'on est une commune donc de moins de 500 habitants.
Vous habitez hein, Vinzieux, vous êtes chez votre maman, hein, je crois, ce qui n'est pas anormal à 19 ans, Hugo Biollet. Cela dit, vous avez déjà une petite expérience en politique à travers quelques stages, racontez-nous.
Exactement, moi j'ai commencé au travers de stages, et peut-être pas le stage le plus éloquent pour en parler, c'est celui que j'ai fait à la mairie d'Annonay, qui est donc la commune la plus grosse, autour de 15 000 habitants, et auprès du directeur de cabinet de cette mairie qui m'a beaucoup beaucoup appris, et qui a été, on va dire, un de mes mentors jusque-là, qui m'a beaucoup conseillé plus tard pendant la campagne. C'est vraiment à partir de là que j'ai vu ce que l'on pouvait faire pour les habitants et que j'ai aussi appris cette notion de bien commun, que je l'ai mise en pratique. Et c'est ce stage-là qui m'a donné envie de me lancer plus tard.
Pendant la campagne ou juste après l'élection, on s'est moqué de vous? On vous a pris de haut?
Alors oui, c'est sûr, il y a forcément des réflexions qui viennent. Et c'est normal qu'il y en ait parce que... C'est quelque chose qui est inhabituel et je m'en suis rendu compte assez vite, même si c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Et on s'est demandé qu'est-ce que je voulais faire. Il y a eu aussi beaucoup de réflexions qui étaient légitimes et qui doivent être légitimes pour tous les candidats. Qu'est-ce qui vient, pourquoi est-ce qu'il veut se présenter et d'autant plus pourquoi si jeune. Donc c'est sûr qu'il y a eu aussi tout un travail d'explication à faire sur le fait que ce soit pas quelque chose de carriériste, sur le fait que je peux avoir les capacités même en étant jeune, etc. Donc oui, il y a eu quand même beaucoup de questions qui sont posées.
Parlons de pure politique de terrain, justement, avec un élu local que vous êtes, Hugo Biollet. Les premiers chantiers pour votre commune, alors on rappelle que c'est un village de près de 500 habitants, qui pour l'heure, je crois, n'a ni commerce ni école. Hein.
Exactement. Alors les premiers chantiers, alors on a eu deux sujets de fond qui sont déjà tombés et qu'on a déjà évoqués en conseil municipal. Ça a été en plan communication pour mettre 20 jeux en ligne. Ça a été en plan communal de sauvegarde que l'on revisite. Ça c'est pour la sécurité. Si jamais il y a des crises au sein du village les premiers chantiers, bien sûr le budget aussi. Donc il y a plein de choses et toute la partie événementielle sur laquelle j'avais appuyé en campagne, bien sûr, a été reportée pour cause de crise du Covid-19.
Évidemment, et vous avez aussi promis un développement numérique de la commune, hein, je crois, Hugo Biollet.
Exactement, au sein du plan communication avec site internet et page Facebook qui est aujourd'hui en ligne et dans laquelle je mets toutes les actualités de la mairie, que ce soit celle du conseil municipal ou alors une actualité du village, des événements aussi.
Vous voyez faire carrière en politique, Hugo Biollet. Je rappelle, vous êtes élu, le plus jeune maire de France aujourd'hui, et accessoirement étudiant à Sciences Po.
Ouais. Pour le moment, je ne me vois pas au-delà de 6 ans. En fait, là aujourd'hui, ma vision s'arrête à 6 ans parce que dans 6 ans, je vais terminer mes études, je vais terminer ce mandat. Et donc je me pose pas encore la question, disons. Je pense que je vais me poser la question dans 3-4 ans, j'aurai peut-être des opportunités.
Ça viendra vite, oui.
Aujourd'hui, je n'y vois pas du tout. J'essaie de penser d'abord à Vinzieux et d'abord aussi à l'intercommunalité qui va arriver très vite.
Hugo Biollet, merci beaucoup.
Merci à vous.
Plus jeune maire de France, élu à 18 ans au printemps dernier, 19 ans aujourd'hui, le maire de Vinzieux en Ardèche, 450 à 500 habitants. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct et d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu sur Europe 1. Il est 6h23.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec le hashtag balance ton grossophobe entre témoignages, moqueries et prise de conscience. On en parle dans un instant avec Paul Lassen sur Europe 1. Il est 6h25 sur Europe 1, la matinale. Mathieu Béliard.
Mais tous les jours à 6h25, nous retrouvons Paul Lassen pour le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Alors on le sait, cet espace de liberté de parole que sont les réseaux sociaux, eh bien, ça a parfois des limites. Hier, le hashtag balance ton grossophobe a aussi montré ce que peut aussi être le pire des réseaux sociaux que vous racontez chaque matin.
Des centaines de témoignages toute la journée, très durs et révélateurs d'expériences traumatisantes pour les internautes. Ce qui frappe aussi, c'est que ces attaques viennent souvent de personnes proches. Mon médecin m'a dit devant ma mère, tu devrais vraiment faire un régime, sinon personne ne voudra jamais de toi et tu seras triste toute ta vie. J'ai pleuré en rentrant chez moi, écrit Laurine. Autre cadre qu'on imagine plus bienveillant, l'école. Je me suis fait harceler pendant une grande partie de ma scolarité à cause de mon surpoids. Et la seule chose que le directeur de mon collège a su me dire, c'est « tu pourrais manger un peu moins », témoigne Sacha. Les enfants qui sont les plus touchés par ce genre de remarques, comme cet internaute qui témoigne. En cinquième, je voulais faire de la natation avec mes parents. On a été m'inscrire. Et là, le prof dit, ça se voit qu'il préfère manger des bonbons et des gâteaux plutôt que de faire du sport.
Des témoignages parfois très violents qui, j'imagine, ont beaucoup fait réagir.
Oui, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, la violence s'est ajoutée à la violence. De simples moqueries parfois, mais surtout beaucoup de messages insultants. Dans ce tweet d'Antoine, par exemple, les gros ne font pas de sport et ils viennent se plaindre des gens qui leur font remarquer. Les gars, déjà, si vous assumiez, vous ne parleriez pas de votre corps tout le temps, ça prouve bien qu'il y a un problème. Pour Popiette, cette complainte est inutile. Arrêtez de vous plaindre et reprenez-vous, parce qu'à répéter que vous n'êtes pas bien, mais que vous avez la flemme de bien manger, vous me saoulez. Cet internaute lui aussi n'y va pas de main morte. En vrai, si vous faisiez autant d'efforts pour maigrir que vous en faites pour chialer sur les réseaux sociaux, vous feriez tous 30 kilos de moins. D'autres, encore plus décomplexés, osent même les insultes en vidéo.
J'allais créer une brigade, je l'appellerais la brigade anti-ronde. En fait, c'est une police qui verbalise toutes les femmes, plus 60 kilos pour excès de poids. Et si t'as plus de 10 kilos, tu passes en garde à vue.
Ouais, c'est dur, si ce n'est complètement débile. Paul, ce déferlement de haine a tout de même trouvé des contradicteurs.
Oui, des centaines de tweets pour défendre ceux qui ont osé témoigner. Comme Chéri, par exemple, le nouvel hashtag pour dénoncer les discriminations envers les personnes en surpoids, grosses ou obèses, c'est vraiment top. Personne ne devrait se sentir mal à cause de son poids ou de sa morphologie. Courage à vous tous. Certains utilisent même leur expérience pour encourager ceux qui souffrent. C'est le cas de Christophe. Je pensais qu'il était impossible de perdre du poids. J'ai perdu 68 kilos. Aujourd'hui, je mange bien, je fais du sport. Croyez en vous pour ces défis. C'est mon témoignage d'ancien gros. Enfin, ce tweet de Lisa comme message d'espoir. L'obésité est une maladie, on est d'accord. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous vous sentez bien, alors que chacun s'occupe de son cul, n'oubliez pas que chaque corps est beau. Avis aux critiqueurs.
Merci Paul Lassène. Et ce hashtag, je vais le reprendre quand même, hashtag balance ton grossophobe. Voilà le pire et le meilleur, et parfois le pire, vous l'aurez compris, des réseaux sociaux tous les matins à 6h25 avec Paul, 6h28. Kanye West sur Europe 1 ce matin, le rappeur américain qui a sorti hier un tout nouveau morceau, on va en écouter quelques notes, et qui annonce surtout un tout nouvel album. Vous le savez, Kanye West a basculé dans un rap évangélique, si j'ose le présenter ainsi, en tout cas quasiment militant de la cause chrétienne. Kanye West aujourd'hui, le nouveau morceau s'appelle Wash Us in the Blood, lavez-nous par le sang, c'est une allusion directe à un passage de l'Apocalypse. Alors, nouvel album en vue, ça s'appellera God's Country, et nouveau single dévoilé avec un clip qui reprend les images de manifestations antiracistes aux États-Unis. Descends sur nous, Esprit Saint, nous avons besoin de toi maintenant. Les paroles de Kanye West, premier extrait du prochain album God's Country. Ce premier single s'appelle Wash Us in the Blood, lavez-nous par le sang. 6h29 sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et la météo, ça bouge en météo, mais la tourmente qui va se dessiner aujourd'hui est quand même assez relative. Encore que dans le midi, vous allez voir. Mais la tourmente est assez relative et le beau temps va revenir très vite. Alors, sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, les pluies sont là souvent par épisode, elles le resteront, mais des éclaircies cet après-midi dans ces régions. En Champagne-Ardenne, en région parisienne, quelques gouttes ce matin, ensuite des pluies un peu plus régulières dans l'après-midi. Des éclaircies timides sur la Loire-Atlantique, le Poitou-Charente, les Pays de la Loire, le Limousin et tout le sud-ouest. Si vous habitez la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Bourbonnais, le Languedoc et la Provence, ce sont des éclaircies assez belles. Et puis les orages sur la région Rhône-Alpes, vers Lyon, vers Grenoble, ça va tonner cet après-midi. Les Cévennes aussi, le Roussillon. N'oubliez pas donc ces orages qui sont à prendre au sérieux, les températures maximales entre 23 et 31 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous sur Europe 1, un nouveau journal, il est 6h30.
On est sur un rythme de bien 20 000 primes par semaine. Le dispositif se terminerait dans la limite des 200 000 véhicules entre le 10 et le 25 août.
N'attendez pas la rentrée en septembre pour profiter de la prime à la conversion. Information Europe 1, la moitié des offres prévues a déjà été utilisée. Un témoignage dans ce journal, le fils d'un homme mort du Covid et à qui on réclame 7 000 euros, la facture des soins de son père qui n'avait pas de mutuelle. Et puis les grandes manœuvres autour de l'Olympique de Marseille. Que veut faire exactement l'homme d'affaires franco-tunisien Mohamed Ajroudi pour le club? Les détails à la fin du journal.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Faire un footing pendant un arrêt de travail peut amener le salarié à rembourser à la sécu les indemnités journalières versées. Roland Pérez, juste après le journal. 6h40, les discothèques ne peuvent toujours pas déconfiner, un secteur à l'agonie qui demande une aide urgente avant l'été. Et puis nous vous emmenons au Mexique, en Russie et en Italie dans la revue de presse internationale, c'est avant 7h. Très bon réveil à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Plus 1,2%. Le chiffre est tombé il y a à peine une demi-heure. Une hausse des immatriculations en juin. Et il faut bien le préciser, c'est par rapport à la même période l'an dernier. C'est donc une très bonne nouvelle. La prime à la conversion n'y est sans doute pas pour rien.
Un dispositif activé en urgence par le gouvernement pour soutenir la filière automobile. 3 à 5 000 euros si vous mettez votre ancienne voiture à la casse pour en acheter une plus récente. Europe 1 vous le révèle ce matin. 100 000 primes à la conversion ont déjà été utilisées en un mois. Aurélien Fleureau.
Les primes à la conversion ont représenté entre 15 et 20% des transactions depuis le lancement du dispositif le 1er juin dernier. L'assouplissement des critères pour en bénéficier a fonctionné. La prime à la casse version 2018-2019 tournait au rythme de 10 000 par semaine. C'est désormais deux fois plus, explique Christophe Morel, président des concessionnaires au sein du CNPA.
On est sur un rythme de bien 20 000 primes par semaine. Selon nos estimations, le dispositif se terminerait dans la limite des 200 000 véhicules mis au rebut entre le 10 et le 25 août.
Les constructeurs se félicitent de ces chiffres. Le mois de juin aura bien été celui de la relance du marché, sans garantie sur le long terme, mais au moins un soulagement de revoir des clients en concession, notamment grâce à cette prime à la conversion, comme l'a constaté Vincent Cobé, directeur général de Citroën.
Ça montre l'importance de ces processus de reprise. On les voit et on voit un effet tout à fait marquant dans les commandes que nous avons prises au cours des deux dernières semaines. Oui.
Et si le CNPA estime donc la fin de ces 200 000 primes à la conversion d'ici 5 à 6 semaines, les professionnels espèrent une prolongation du dispositif, même sous une forme différente.
Et on arrive aujourd'hui à la moitié de l'année 2020, puisque nous sommes le 1er juillet, avec, comme toujours, quelques hausses ou baisses de certains tarifs et des nouveautés aussi, Olivier Samin, notamment en matière sociale.
Il y a d'abord l'entrée en vigueur du dispositif de chômage partiel de longue durée qui va permettre à une entreprise confrontée à une baisse durable de son plan de charge de continuer à payer ses salariés 84% de leur salaire net et même 100% s'ils sont au SMIC pendant une période qui pourra aller jusqu'à 2 années. Il s'agit d'une aide de l'État, mais son versement est conditionné à la signature d'un accord avec les syndicats, accord qui doit prévoir des engagements sur l'emploi. L'autre grande mesure sociale qui entre en vigueur aujourd'hui, c'est la possibilité pour les entreprises de toucher une prime de 5 000 euros pour chaque embauche d'apprenti et même de 8 000 euros si l'apprenti est majeur. Enfin, toujours dans le champ social, les allocations chômage sont revalorisées de 0,4% à compter d'aujourd'hui. Du côté des prix à la consommation, retenez une baisse et une hausse. La baisse, c'est celle du tarif réglementé du gaz distribué par Engie, moins 0,3%. La hausse, c'est celle de certaines marques de cigarettes, avec un paquet qui augmente, selon les cas, de 10 à 20 centimes.
Europe 1, il est 6h34.
Alors que le nombre de patients en réanimation continue de baisser en France, ils sont 602 selon les chiffres publiés hier soir, nous voulions vous faire entendre un témoignage ce matin sur Europe 1.
Oui, car sans mutuelle pour les victimes du Covid et leurs proches, la facture peut être lourde et douloureuse à payer. Exemple donc avec cet homme que Nicolas Feldman a rencontré.
Jamais j'aurais pensé que j'allais avoir 7000 euros à payer.
Depuis l'ouverture du courrier le 3 mai dernier, difficile pour ce chauffeur de bus de réaliser. Son papa est mort du coronavirus le 28 avril. La famille doit régler ses 10 jours en réanimation, 7036 euros précisément.
Je l'ai très mal pris, 10 jours après un décès, envoyer des factures à ma mère avec sa petite retraite de 560 euros maintenant qu'elle est toute seule. C'est compliqué un peu.
Pour l'assistance publique des hôpitaux de Paris, ce cas est exceptionnel. Tout est aujourd'hui mis en œuvre, nous dit-on, pour suspendre ou annuler les factures des plus précaires. Car sans mutuelle, les soins les plus coûteux ne sont pas les mieux couverts. Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de la PHP.
Que vous ayez ou non une mutuelle, il y a des maladies qui sont prises en charge à 100%. Bizarrement, la Covid n'était pas dans ces maladies. Donc ces factures qui, donc, au bout du compte, ne peuvent pas être payées parce qu'elles sont beaucoup trop coûteuses et ne correspondent pas du tout au budget de ces familles, c'est la PHP qui a un manque dans le budget, dans les recettes. Il peut être important.
De quoi creuser encore davantage les dettes de la PHP. Il y a 2 ans, ces impayés s'élevaient à 68 millions d'euros.
À propos du coronavirus, ce tweet de Donald Trump, « Quand je regarde la pandémie répandre son horrible visage à travers le monde, dit-il, je devient de plus en plus en colère contre la Chine. » Et son concurrent pour l'élection de novembre, Joe Biden, a annoncé hier qu'il renonçait à tenir des meetings jusqu'à la présidentielle.
C'était hier à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, qu'Emmanuel Macron et les dirigeants des pays alliés au Sahel avaient rendez-vous. Un point d'étape dans leur lutte contre les groupes djihadistes. Pour le président français, la victoire est possible.
Nous avons amélioré notre efficacité dans la lutte contre le terrorisme et eu des résultats spectaculaires, en particulier dans les dernières semaines. Dans la région des trois frontières, des zones ont été reprises aux groupes terroristes, les armées se redéploient, le rapport de force a été inversé. Et le terrain que nous avons repris ne sera pas cédé. Le Sahel ne doit pas plonger dans un cycle de violence et de représailles. C'est précisément ce que cherchent les groupes terroristes. Les populations peules, en particulier, ne sont l'ennemi de personne. Nous n'avons qu'un ennemi, le terrorisme islamiste, dans toute la région. Au-delà de l'effort militaire, c'est le retour de l'État, des administrations, des services aux populations que nous allons poursuivre au Sahel.
Emmanuel Macron, hier au sommet du G5 Sahel.
Et c'est le nouveau feuilleton marseillais, plus fort, bien plus fort que Plus belle la vie. Depuis vendredi dernier, les supporters de l'Olympique de Marseille rêvent d'un coup d'accélérateur financier pour leur club.
Oui, qui n'est pas à vendre, hein, officiellement, mais l'ambitieux homme d'affaires Mohamed Ajroudi donne tout de même des détails de son projet à l'agence France Presse sur ses intentions. Jean-François Pérez.
Entre l'OM et lui, assure-t-il, c'est une longue histoire. Mohamed Ayachi Ajroudi, 68 ans, s'avance donc avec la confiance d'un candidat légitime. Il aurait d'ailleurs été deux fois en contact par le passé pour entrer dans le capital du club en 1991, puis 2000, ce que personne n'avait relevé à l'époque. Interrogé sur le refus catégorique de Franck McCourt de vendre l'OM jusqu'à présent, le franco-tunisien persiste. Tout est à vendre, tout est à acheter. Un volontarisme appuyé par des mots et des intentions, mais pas encore par des chiffres. Le moment, dit-il, n'est pas venu. Deux banques d'affaires peaufinent ce plan d'attaque qui sera avant tout méditerranéen, car au-delà du football, Mohamed Ajroudi parle humanitaire, social, économique. Toutes les religions du bassin doivent être représentées au centre de formation, l'OM étant croisade pour la paix, conclut-il, lyrique et un brin décalé. Pendant ce temps, Mourad Boudjelal a rencontré les clubs de supporters, moment convivial mais assez évasif selon un participant. Cette drôle de partie d'échecs qui passionne Marseille n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets.
Jean-François Pérez pour Europe 1.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 6h30. Il est 6h38, très bon réveil.
Une question de droit, la réponse de l'expert juridique d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Roland, les Français étaient autorisés pendant le confinement à pratiquer, on s'en souvient, une heure de sport par jour et nombreux sont ceux qui se sont adonnés aux joies du jogging pour s'aérer, sortir de chez eux. Si ce n'est que pour ceux placés en arrêt maladie, comme par exemple les parents contraints de garder leurs enfants chez eux, un simple jogging peut leur coûter le remboursement des indemnités journalières qu'ils ont perçues. Ça paraît totalement fou, Roland, expliquez-nous.
Oui Mathieu, c'est la Cour de cassation qui le dit dans une décision très récente rendue le 28 mai dernier, dans une affaire hors contexte Covid, c'est vrai, mais l'on pourrait très bien imaginer qu'elle puisse aussi trouver à s'appliquer à toute personne arrêtée pour maladie durant la crise sanitaire et qui ont pratiqué pendant les heures autorisées de sortie une activité sportive. Je m'explique. Un article du Code de la Sécurité sociale précise que le versement des indemnités journalières par la Sécurité sociale au lieu et place de la rémunération du salarié placé en arrêt maladie est subordonné à l'obligation du salarié de respecter à la lettre ce que le médecin a prescrit et surtout de s'abstenir de toute activité non autorisée. Un salarié adepte du jogging l'a appris à ses dépens puisqu'il s'est vu demander le remboursement des indemnités perçues par lui parce qu'il était parti courir pour se détendre. Et pourtant, les premiers juges du tribunal de sécurité sociale n'avaient pas vu à mal et pensaient même que ces joggings contribuaient à améliorer la santé du salarié qui souffrait en l'occurrence de dépression due, semble-t-il, à un contexte professionnel. Et puis surtout, toujours selon le tribunal, il avait été prescrit au salarié des sorties libres et aucune contre-indication sportive n'était mentionnée sur l'arrêt de travail. La Cour de cassation a cassé cette décision de bon sens pour se cantonner à l'application du droit strict en énonçant que l'arrêt initial de travail ne mentionnait pas expressément la possibilité d'une activité sportive et que cela suffisait à encourir les foudres du Code de la Sécurité sociale.
Et Roland, jardiner, bricoler ou être bénévole dans une association, c'est également interdit pour un salarié en arrêt maladie ?
Oui Mathieu, car les journées d'arrêt de travail ne sont ni des jours de congé, ni des RTT, et le salarié ne peut pratiquer que les activités mentionnées noir sur blanc sur l'arrêt de travail. Et donc vous l'avez compris Mathieu, il faudra penser à l'avenir à demander au médecin qui établit l'arrêt de mentionner expressément certaines activités qui peuvent contribuer évidemment au rétablissement du salarié.
Étonnant, étonnant, mais au moins on y voit plus clair grâce à vous Roland Pérez. Votre question de droit tous les matins, juste après le journal de 6h30.
Europe 1. La suite de la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit le député européen, vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ce matin, dans un instant, dans un tout petit instant, les conséquences économiques du Covid-19, qui sont toujours à la une bien sûr, avec un des derniers, si ce n'est le dernier secteur, à ne pas avoir déconfiné son activité, les boîtes de nuit. Et le temps presse, l'été est là. Où danserez-vous cet été, les représentants du secteur, dans une minute ?
Europe 1, il est 6h42, les acteurs de l'actualité sont en direct. Votre invité Mathieu Béliard, Thierry Fontaine, président de la branche nuit de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Bonjour Thierry Fontaine.
Bonjour.
Et vous êtes vous-même propriétaire de deux boîtes de nuit à Lyon, je
Exactement.
Crois.
Exactement.
Lyon même, c'est ça ?
Tout à fait.
Bon, vous êtes le dernier, un des derniers secteurs, mais je ne trouve pas, un des derniers secteurs non déconfinés, les discothèques. Et vous attendez, alors il y a des rencontres avec le gouvernement, il y en a eu une hier, une nouvelle réunion aujourd'hui, très simplement pour démarrer, où est-ce qu'on en est ?
J'aimerais avoir le sentiment qu'on avance. Voilà. Hier, on a été entendu pendant 2 heures à la santé. On s'est rendu compte que nos métiers n'étaient pas spécialement connus. Peut-être que les ministres ont souvenir de leur soirée médecine, puisque je crois qu'Olivier Véran est un neurologue grenoblois.
Oui, oui,
donc sans doute qu'il avait souvenir des soirées médecine telles qu'il les a connues. Alors, soirée médecine, c'est ça qui a donné naissance aux soirées Projet X telles qu'on les a connues. Hein. C'est l'origine là-bas, c'est les soirées médecine. C'est le pire qu'on puisse connaître.
Il y a peu de distanciation sociale, on va dire, et de distanciation. On posera la question à Olivier Véran. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a en tête, mais vous dites pour l'instant ça n'avance pas beaucoup. Alors, et ils ne connaissent pas notre métier, c'est ça?
On leur a expliqué ce qu'on était capable de faire hier. On a eu quand même une bonne discussion de 2 heures, donc on a été entendu, écouté. Les médecins nous ont expliqué ce qui les dérangeait, ce qui dérangeait le conseil scientifique dans la boîte de nuit. Ce qui les dérange aujourd'hui dans la boîte de nuit, c'est la piste de danse telle qu'on la connaît. Donc nous on est prêts à faire des efforts là-dessus. Pour une fois qu'on nous dit, si on nous l'a dit avant, on aurait peut-être pu travailler avant d'ailleurs, hein, ça aurait été gagné du temps.
Comment on fait des efforts sur la piste de danse?
Eh bien on la supprime.
D'accord.
Telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que ce qu'ils ne veulent pas, c'est que des gens des quatre coins de la France se retrouvent entre inconnus au milieu d'une piste, qui dansent, qui aient des éjections de gouttelettes, malgré qu'on soit le lieu le moins confiné qui existe dans les commerces ouverts, hein, puisqu'on a, nous, une obligation d'avoir des ventilations très puissantes.
Après, il peut y avoir de la proximité sur une piste de danse en boîte
de nuit.
Bien
sûr qu'il y a de la proximité, mais vous en avez dans les magasins de fringues, vous en avez dans les supermarchés. D'accord. Sauf que nous, si nos ventilations ne sont pas en route, au bout d'une heure, ça sent le poney, au bout de 2 heures, l'écurie, et au bout de 3 heures, il pleut dans la boîte tellement il fait chaud et humide. Donc de toute façon, nous, ça tourne, ça ventile. Les lieux qui aujourd'hui sont tous ouverts depuis le 11 mai ou le 2 juin n'ont pas ces capacités de ventilation. Et je vous garantis que s'il y a des gouttelettes qui restent en suspension, vous les attrapez plus là-bas.
Si on plante le décor en France, 1600 discothèques, je parle sous votre contrôle, le secteur c'est 43 000 emplois directs, beaucoup plus avec vos sous-traitants, parce que je voyais que par exemple dans les 43 000 emplois directs, on ne compte pas les agents de sécurité ?
Non.
Non ? On est sur combien d'emplois au total ?
Alors, nous, le problème, c'est ce qui impacte aujourd'hui, ce n'est pas que les boîtes de nuit. En théorie, c'est tout ce qui est type P. Donc, partout, on a le droit de danser. C'est ça qui est fermé. Il y a aussi un flou là-dessus. Donc là, ça fait 100 000 emplois directs et on est autour de 50 000 emplois indirects si on prend tout ce qui est interdit aujourd'hui, hein, les activités de danse.
Et vous dites ce matin que vous êtes, c'est ça qui est important, que vous êtes capable d'organiser la sécurité sanitaire, de fonctionner cet été. Vous avez consulté des médecins. Je crois que vous proposez même de rendre obligatoire le téléchargement de l'application Stop Covid à l'entrée.
Alors, oui, tout ça, nous, ce qu'on veut faire comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour dégrader une situation. On est tous conscients dans ce métier des risques du virus, de sa présence. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer. Parce que ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, ce qu'on est capable de voir en France partout, c'est que ce qui se passe ne va pas améliorer les choses. Nous, on a des solutions claires et nettes, nos analyses, notre expertise pour améliorer ce qui se passe aujourd'hui en termes de déconfinement et de risques. Donc on fait ces propositions au gouvernement par un traçage possible des clientèles, par justement de la ventilation, de la dissociation en supprimant la piste de danse et éventuellement en équipant en table et chaises de façon à ce que les gens puissent danser par gens du même groupe. Donc ils viennent ensemble, ils dansent ensemble, ils repartent ensemble. Il y a plein de solution. Mais en effet, il faut échanger. Quand on construit un avion, il n'y a pas un mec qui construit son moteur dans son coin, un autre qui construit l'aile, le mec qui construit le cockpit. À un moment donné, il y a une réunion commune pour que l'avion vole.
En l'occurrence, mauvais exemple parce que si, on va reparler avec Airbus ce matin, mais je crois qu'on voit ce que vous voulez dire. Cela dit, les pertes du secteur aujourd'hui, vous êtes capable de les chiffrer par rapport à l'arrêt total de l'activité et la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui?
Alors, les pertes, oui, on est dans l'ordre de 480 millions d'euros. Tout dépend, c'est difficile à chiffrer sans savoir combien de temps, parce qu'il y a des gens finalement qui ne vont plus perdre grand-chose, parce qu'une fois qu'ils auront tout perdu, pas besoin de leur donner quoi que ce soit.
1600 discothèques, vous êtes aujourd'hui, combien sont menacés de fermeture définitive?
Ah bah là, la moitié, ouais. Facilement la moitié, ouais.
On peut perdre la moitié des boîtes de nuit françaises.
Ouais, complètement. Ce qui est inquiétant, c'est quand on voit ce qui se passe en fête sauvage, où tout le monde va s'infecter, il n'y a pas de mesure barrière.
Ce que vous appelez une fête sauvage, c'est...
Bah, toutes les soirées privées, par exemple, où aujourd'hui les gendarmes vont en leur disant c'est une soirée privée, vous êtes 500 chez un particulier, Airbnb maintenant loue des villas entières pour faire la fête.
Et là, il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de contrôle
sanitaire. Il n'y a rien de tout ça, et puis personne n'est là pour dire tiens jeune. Et il y a un volet que le peuple doit prendre en considération, et le gouvernement surtout, c'est le volet de la prévention sur l'alcoolisme, sur les drogues, sur tous ces abus, que les discours qu'on fait main dans la main avec le gouvernement pendant 20 ans, là en quelques semaines on va remettre tout ça à zéro. On a mis 20 ans à grimper une montagne et là on va nous remettre mettre en bas de la montagne en disant « il va falloir regrimper la montagne ». Et là, ça va être une catastrophe. On a des jeunes de 15, 16, 17 ans qui boivent, mais jusqu'à tomber ivre-mort, dans 2 mois, ils seront complètement alcooliques. Le chemin fait, on ne pourra plus revenir en arrière.
Et... Cela dit, ils ne pouvaient pas rentrer dans vos établissements, ces jeunes de 15, 16 et 17 ans.
Non, mais aujourd'hui, si vous voulez, vu qu'il y a la fête sur la voie publique, ils y ont accès de partout. C'est la fête.
Vous dites les bars de nuit ont rouvert, les clubs libertins ont rouvert.
Ouais. Ça faut qu'on m'explique comment on fait de la distanciation sociale dans un club libertin.
C'est vous le professionnel de la nuit.
Je
m'avancerai pas sur ce terrain-là.
Il faudrait qu'on aille faire une petite étude dedans pour voir exactement comment ça se passe.
Comment, mais vraiment, on peut poser la question très clairement. Comment marche la distanciation sociale en club échangiste? C'est une vraie question. Aujourd'hui, à Paris, une centaine de DJ vont manifester leur soutien au secteur. Ils passeront des disques derrière les platines. Mm-hmm. Les artistes, les musiciens en particulier, ils vous soutiennent? Vous les sentez derrière vous?
Alors, on est un petit peu déçu des gros DJ internationaux français, notamment. On n'a pas trouvé qu'il y avait beaucoup de soutien. Alors peut-être qu'ils se sont fait des courriers à eux-mêmes, mais en tout cas, on n'a pas vu la couleur. Et je pense que la profession aurait espéré que ces gens-là montrent un petit peu...
C'est un appel que vous lancez ce matin.
On a quelques
DJ très très connus à l'échelle mondiale, c'est vrai.
Et ce serait peut-être bien qu'ils se bougent, qu'ils soient derrière nous, qu'ils nous proposent de monter des opérations. Je pense qu'ils ont l'écoute de milliers de jeunes. Et si on a des opérations montées, je pense qu'on aura besoin d'eux, clairement.
Merci Thierry Fontaine.
Merci
beaucoup.
On va
suivre, évidemment, nouvelle réunion aujourd'hui. Vous attendez quoi ? Une date, concrètement. C'est ça que vous voulez ?
Alors, c'est surtout les saisonniers qui attendent une date parce que si on n'ouvre pas les saisonniers au 10 juillet, ils auront finalement, si on leur propose de rouvrir en septembre, bah, ils ne rouvriront pas en septembre puisque rouvrir au moment où il n'y a plus de clients, ça ne sert à rien. Donc là, si on n'ouvre pas au 10 juillet, ils auront eu 18 mois sans travail. Quelle entreprise est capable de tenir 6 mois sans 1 euro de revenu ? Et alors celle de 18 mois, on va à la casse, c'est clair.
Merci Thierry Fontaine, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Nuit, la branche Nuit de l'UMI, propriétaire de 2 boîtes de nuit à Lyon. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Il est 6h50.
Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger? À suivre la revue de presse internationale sur Europe 1.
Le Mexique, la Russie et l'Italie au programme. À tout de suite.
Vous écoutez Mathieu Bélière, la matinale d'Europe 1 et à 6h52, la revue de presse internationale.
Avec notre réseau de correspondants sur tous les continents, nous démarrons avec Laurence Cuvillier au Mexique pour Europe 1. Bonjour Laurence.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qu'on trouve à la une au Mexique ?
Un paysage de forêt tropicale et devant une armada de pelleteuses. C'est l'image pour le moins maladroite qu'a choisi le président mexicain López Obrador pour le lancement des travaux du train Maya. Projet visionnaire selon le gouvernement, lubie voire obsession selon la presse mexicaine quasi unanime. Ce train de passagers aura pour but de désenclaver la région maya du sud-est du pays, l'une des moins dynamiques économiquement. Le quotidien El Universal titre « Le train passe outre les règles environnementales, car les études d'impact écologique sont peu encourageantes. Ce train, qui fonctionnera au diesel, nécessitera l'abattage de milliers d'arbres et passera par 8 réserves naturelles protégées. » Les associations mayas, elles-mêmes opposées au projet, ont rejoint Greenpeace pour une tentative désespérée de stopper le train en marche. Affaire à suivre.
Laurence Cuvillier au Mexique. Elena Voloshin est à Moscou pour Europe 1. Bonjour Elena.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Russie ?
À la une en Russie, dernier jour de vote de la réforme constitutionnelle qui doit permettre à Vladimir Poutine de concourir pour 2 mandats présidentiels supplémentaires. Et cette adresse télévisée quelque peu surréaliste du président à la nation hier sur fond d'un gigantesque monument qu'il était venu inaugurer aux côtés du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Sans mentionner une seule fois l'annulation de ces mandats, Poutine a mentionné les valeurs de vérité et d'honnêteté qui devaient guider les Russes dans leur choix. Des mots pour le moins en dissonance avec la façon dont s'est déroulé le scrutin jusqu'à présent, puisque cela fait déjà une semaine que les Russes votent. Urnes électorales délocalisées dans des coffres de voitures, sur des aires de jeu ou des bancs publics, mais aussi les incontournables témoignages de bourrage d'urnes se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Une fois encore, c'est à croire que les autorités russes auront tout fait pour assurer le plébiscite à Vladimir Poutine.
Elena Voloshin, Blandine Hugonnet est à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine.
Bonjour Mathieu.
À la une en Italie.
Eh bien, ça sent les vacances en Italie. À partir d'aujourd'hui, les Italiens vont pouvoir voyager gratis aux frais de l'État, écrit Il Sole 24. Un bonus vacances est lancé ce matin. Il Messaggero détaille les 3 bons disponibles. 150 € pour une personne, 300 pour les couples et 500 € pour les familles. Objectif expliqué par la Repubblica, aider les foyers les plus modestes après cette période Covid et surtout pousser à la consommation locale pour relancer un secteur touristique à la peine. D'ailleurs, cette prime ne peut être utilisée que sur le territoire italien, prévient le Corriere, pour payer des hôtels ou des gîtes qui seront ensuite remboursés par l'État. Mais les critiques fusent déjà. Ce bonus vacances pourrait faire un flop selon la presse économique. Beaucoup d'établissements sont désormais dans le rouge et n'auront pas les moyens d'avancer les frais des touristes italiens cet été.
Merci Blandine. Nous étions donc en Italie, au Mexique, en Russie. C'était la revue de presse internationale. C'est tous les matins à 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. À 7h, le journal et la météo de Laurent Cabrol à suivre sur Europe 1. 6h56, vous écoutez Mathieu Bélier sur Europe 1.
Mercredi 1er juillet, bon réveil à toutes et à tous avec la matinale d'Europe 1. Ensemble, vous le savez, on écoute le monde changer. Évidemment, évidemment, Airbus à la une ce matin. 15 000 suppressions d'emplois, 5 000 pour Toulouse. Annonce choc alors que l'avionneur fait face à une baisse de 40% des commandes. À 8h, tout à l'heure, nous serons à Blagnac, à Toulouse, justement en direct avec les salariés Airbus. Nous appelons aussi les sous-traitants qui sont évidemment directement impactés par la situation du géant européen. 7h, dans un instant, l'éclairage écho de Nicolas Barré sur le sujet. C'est à la une, nous parlons aussi du plan social. Vous allez me dire que c'est presque lié, le plan social massif en vue chez Air France, 7500 emplois menacés. C'est la situation de crise dans laquelle se trouve tout un secteur. Bon, en avion ou pas, nous vous dirons ce matin, dans le journal de 7h30, où les Français auront droit de partir en vacances à l'étranger cet été. On est le 1er juillet, ça peut compter. Et même si nous sommes arrivés en juillet, ce matin sur Europe 1, les questions de santé sont toujours à la une. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une nouvelle flambée du Covid-19 ? C'est l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé avant-hier soir. La pandémie s'accélère actuellement et face à un monde divisé et à un manque d'unité nationale de solidarité mondiale, le pire est à venir, dit l'OMS. Situation préoccupante. Donc, à Pékin, en Amérique latine, c'est dramatique. Aux États-Unis, le déconfinement est ralenti. En Europe même, on vous a parlé de l'Allemagne, du Portugal, de Leicester en Angleterre. Est-ce qu'il faut craindre pour la France ? À 7h40, je poserai la question au virologue et directeur adjoint du Centre de référence des virus respiratoires de l'Institut Pasteur, Vincent Hénouf. Il sera dans ce studio. Et j'ai une autre question pour lui, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau virus dont on parle en Chine ? Un virus de grippe porcine descendant de la souche H1N1 de la pandémie de 2009, un virus qui serait déjà transmissible à l'humain, mais pas encore entre humains. Pourquoi ce virus préoccupe les scientifiques ? Je poserai la question à Vincent Hénouf et dès le journal de 7h30, nous en saurons plus sur le travail justement autour de cette souche H1N1. Pardon. Débat médical toujours à 8h30, on écoute le monde changer. Pendant le confinement, avez-vous eu recours à la télémédecine ? Spécialistes, psy et autres professionnels médicaux, paramédicaux ont téléconsulté. Il a fallu s'y mettre. Aujourd'hui, ils demandent un meilleur remboursement de la télémédecine. Sur le hashtag Europe 1, vous allez nous dire, intervenir, est-ce que vous avez téléconsulté ? Et quel retour d'expérience, on en parle ce matin à 8h30. 6h59, très bon réveil à toutes et à tous. Laurent Cabrol nous rejoint pour la météo.
Et avec une météo très tourmentée aujourd'hui, où il y a un peu tous les types de temps, nous avons des orages. Alors ça, je commence par le plus dangereux, des orages sur la région Rhône-Alpes cet après-midi, surtout vers Lyon, vers Grenoble, sur les Alpes, dans les Cévennes, des orages aussi dans le Roussillon. Et ce matin, il y a un petit peu d'orage dans le delta du Rhône, et il pleut sur les côtes méditerranéennes, essentiellement, d'ailleurs sur le Languedoc. Bon, il y a quelques gouttes sur Paris. Sur Paris, les gouttes vont poursuivre un peu comme Champagne-Ardenne, mais les pluies, surtout cet après-midi sur la capitale, de manière très épisodique, attention. Près des côtes de la Manche et la mer du Nord, des pluies souvent également épisodiques, mais éclaircies, de belles éclaircies cet après-midi. Éclaircies assez belles sur la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, le Bourbonnais et le Languedoc. Et puis, ces orages dont je parlais tout à l'heure. Les températures, 19 à Brest, 21 degrés à Rennes, 23 à Caen, 24 à Niort, 25 à Paris, 26 à Nice, 27 à Bourges, 29 à Marseille, 30 à Dijon, 31 à Strasbourg, 33 à Grenoble et 25 degrés où ? À Bordes. Paul Fort a écrit « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. »
Merci Laurent Cabrol.